Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui.
Bonjour. Les missions de routine à bord d'appareils essoufflés peinent à effacer l'ennui et les tensions qui règnent au sein d'une escadre de bombardement en ces jours de mai 1940. Parmi les équipages, deux fortes personnalités s'imposent, celle du capitaine et celle du colonel. Désobéissance de Casamayor a été publiée aux éditions du Seuil en 1968. Entre les avions, les intervalles étaient respectés d'autant plus rigoureusement qu'on était près du colonel. Si l'on avait mesuré la distance qui séparait le commandant à droite et le capitaine à gauche de l'avion de tête, on aurait constaté que depuis le début du vol, elle n'avait pas varié d'un mètre. Si des tiges rigides avaient accouplé les avions, leur triangle n'en aurait pas été moins immuable. Et cela se faisait inconsciemment. Au second échelon, et sans qu'il y eût là une négligence quelconque des pilotes, la liaison était plus souple. Au troisième échelon, il n'y avait que Camerer à droite. Le septième avion, celui de Brunetto, n'était jamais parvenu à faire tourner ses moteurs. Camerer occupait dans sa file une position relativement autonome. Le capitaine Van Steeren, qui parcourait du regard toute la formation, ne prit pas garde à la distance qui séparait Camerer de l'avion qui le précédait, celui du lieutenant Augugnon. Sans doute semblait-elle un peu grande, bien que vue en oblique, elle aurait dû paraître plus courte que celle qui séparait Augugnon du commandant d'Aguibel. Van Steeren continua de tourner comme un phare. Il revit l'avion de roue derrière lui, puis, après une longue ligne d'horizon, son regard rencontra de nouveau l'avion du colonel, puis retrouva dans la même monotonie celui du commandant, celui du lieutenant Augugnon, et c'est alors que la monotonie fut rompue. Le 7 n'était pas à sa place. Il ramait, comme on disait d'une machine qui ne parvenait pas à suivre. Le 7 n'était pas l'avion de Camerer, pour la bonne raison que celui-ci n'avait pas d'avion, ou plutôt qu'il n'en avait plus. Il était tombé en pays neutre 3 mois auparavant, en revenant de lancer des tracts. Le jour de l'offensive, il s'était échappé, et au prix de beaucoup d'efforts, il avait rejoint le groupe et était apparu au milieu de ses camarades, la nuit même où l'ordre de la mission avait été donné. Ni le commandant, ni le capitaine n'osèrent l'exclure pour ne pas l'offenser. Les équipages se constituèrent un peu tout seuls et dans l'émotion qui, sans parvenir à altérer le masque de la fatigue, n'en serrait pas moins les cœurs, Van Steeren n'avait pas prêté attention à ce qui se passait. Maintenant, tandis que le 7 commençait à virer, ce qui était la preuve que quelque chose n'allait pas à bord, le capitaine se rappelait avoir vu ensemble Roux et Revel, l'adjudant aux 8000 heures de vol, qui pilotait le 7. Ils regardaient tous les deux Camerer qui, épuisé et tranquille, était étendu sur un matelas pneumatique, la tête contre son casque. Le 7 avait des moteurs à bout de force. Revel l'avait ramené de mission avec beaucoup de peine et Roux lui avait demandé s'il pouvait repartir. Personne n'avait entendu la réponse. Peut-être un geste avait suffi et Camerer s'était trouvé dans l'équipage du 7, l'avion au fonctionnement hypothétique, sans s'être rendu compte de rien. Tout s'était fait sans débat, sans hésitation, dans une connivence muette, sans que personne ait rien caché, sans que personne ait rien vu, sans que personne ait rien voulu à proprement parler, puisque chacun dans cette histoire n'avait à peu près rien fait d'autre que de rester à sa place. Vu sous cet aspect, la guerre n'avait demandé qu'un effort personnel infime à ceux qui étaient considérés comme les plus héroïques de ses acteurs, à ceux que des généraux eux-mêmes saluaient parfois avec respect, et Van Steeren entendait encore le claquement de talons d'un colonel de service administratif qui, venant au terrain pour une mission d'inspection, s'était trouvé par hasard en face de quelques hommes qui procédaient au chargement d'un appareil. Ce colonel-là avait salué le premier et à 6 pas encore, puis il s'était avancé, la main tendue. Héros, il portait cette marque aussi voyante que si le mot eût été écrit sur leur cuir, écrit en gros caractères, comme ces marques d'essence auxquelles font de la publicité les pilotes de meeting. En réalité, qu'avait-il fait ? Lui, rien, mais il comprenait maintenant. Des fils étaient prêts à se joindre. Il avait suffi à Roux et à Revel de les rapprocher un peu, et le nœud s'était serré tout seul. Le plus mauvais des avions et le meilleur des pilotes s'était laissé au destin sa chance.
À bientôt pour de prochaines lectures.